Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles afin de lire les textes de la prédication. Tout d'abord, le premier texte dans l'Ancien Testament, en Zacharie, au chapitre 9, des versets 9 à 10. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Ensuite, un deuxième texte, psaume 118, les versets 25 et 26. « Éternel accorde le salut, l'Éternel donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Ensuite, nous allons passer dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, et lire les 11 premiers versets. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, de Bethphagé et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Et pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie, avec les 12. Et enfin, un dernier texte dans Apocalypse, Apocalypse 19, des versets 9 à 16. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il le fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ».
Selon le roi qui règne sur nos cœurs, nous ne comprenons pas la parole de Dieu de la même manière. Et ma prière, c'est que ce matin, ce soit le Saint-Esprit qui soit le roi de nos pensées, de nos sentiments et de notre volonté. Et que notre intelligence soit entièrement à son service alors que nous ouvrons la Bible ce matin. Alors nous continuons à suivre l'évangile selon Marc, que j'aime appeler le journal de Pierre écrit par Marc. Petite remarque, Afin qu'il n'y ait pas de confusion, je tiens à préciser que je ne crois pas que Marc a écrit sous la dictée de Pierre, mais que, inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit tout ce qu'il se souvenait du témoignage de Pierre, de qui il était très proche, et qu'il a entendu de nombreuses fois raconter tout ce qu'il avait vécu avec Jésus. Il a d'ailleurs aussi pu utiliser des notes qu'il a prises lorsqu'il était avec lui. Voilà pour la petite précision. Mais j'aime toujours appeler ça le journal de Pierre écrit par Marc. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un article qui nous fait entrer dans la dernière semaine de la vie de Jésus, dans son corps terrestre qui est comme le nôtre. Et vous trouverez un essai de scénario possible de la dernière semaine de Jésus dans les petits documents, donc en blanc. Tout n'est pas encore résolu concernant les détails de la chronologie. Je ne sais pas si une fois j'arriverai à les résoudre, puisque beaucoup de spécialistes y sont penchés, avec des fois des petites variations. Mais vous avez ainsi un aperçu de cette semaine qui va occuper la fin de notre étude de l'Évangile selon Marc. L'entrée de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, met en évidence son humilité et son autorité. Avant de réfléchir aux enseignements que Jésus nous donne dans cet article, dans ces 11 versets, nous allons réfléchir quelques instants aux lieux qui sont mentionnés, qui devraient nous parler. Ensuite, nous verrons que nous verrons que Jésus est venu humblement en étant effectivement un roi. Ensuite, troisièmement, nous verrons que la foule n'est pas consciente de ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et quatrièmement, nous terminerons par une réflexion concernant la venue glorieuse du roi. Alors entrons dans la première partie, assez courte, mais qui parle des lieux mentionnés. Donc regardez avec moi dans Marc 11, verset 1, donc c'est bien dans vos Bibles ouvertes, dans Marc 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, etc. Quatre lieux sont mentionnés ici. Jérusalem, Bethphagée, Béthanie et le mont des Oliviers. Donc Jérusalem, Bethphagée, Béthanie et le mont des Oliviers. À quoi vous fait penser ces lieux? Alors commençons par Jérusalem. Alors je vous dis tout de suite qu'on ne va pas faire le tour, puisqu'en fait c'est un terme qui est utilisé 600 fois dans l'Ancien Testament et 59 fois dans le Nouveau Testament, donc qui est très très présent dans la parole de Dieu. Mais Jérusalem est la ville conquise par David qui est devenue la capitale d'Israël. Et la construction du temple, en fait, a marqué définitivement la place dans le cœur du peuple et de Dieu. Parce que c'est là que Dieu manifeste sa présence. C'est à Jérusalem que Dieu a choisi de manifester sa présence. Et c'est là que tous les Israélites étaient invités à venir 3 fois par année pour des fêtes. Et la Pâque, dans l'Ancien Testament, était la plus grande fête. Et beaucoup de personnes venaient à Jérusalem. Jésus, en fait, n'a pas marché tout seul à Jérusalem avec ses 12 compagnons. Non. Il était entouré d'une foule de personnes qui venaient aussi à Jérusalem pour la Pâque. Beaucoup de pèlerins s'y rendaient avec lui et ils aimaient, pendant ce chemin, chanter des psaumes. Donc ils se stimulaient par des psaumes. Et moi je vois bien, on est en train de marcher, il y en a un qui commence à chanter un psaume et l'autre qui répond. Et puis comme ça, ils se stimulent à chanter des psaumes durant ce chemin. Vous pouvez aussi revoir toutes les psaumes des montées, dont on a déjà parlé aussi ensemble ici. Voilà pour Jérusalem. Comme je vous l'ai dit, on pourrait parler beaucoup plus encore de cette ville, mais voilà un élément. Donc, pourquoi il est parlé de Jérusalem ici, c'est que tout convergeait sur Jérusalem pour la Pâque. Un deuxième nom, Bethphagée. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un lien avec une histoire biblique ou avec une situation particulière? Si vous me dites non, je vous comprends. En fait, ce qui se passe, c'est que ce lieu s'appelle Maison des Figues. Bon, Béthanie a aussi un lien avec les figues. Et peut-être que c'est là que Jésus a fait sécher le figuier par la suite. Mais on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de lien avec ce lieu. Il est fort probable que c'est là que Jésus a envoyé ses disciples pour chercher l'ânon, le petit âne qui est venu. C'est possible, mais on ne le sait pas exactement. C'est pour ça que ce nom ne nous rappelle rien directement, mais il fait partie de ce cheminement que Jésus prend ici pour aller à Jérusalem. Et je trouvais intéressant qu'un lieu insignifiant est nommé par Marc, ici, dans ce texte. Et ça peut aussi nous enseigner sur des choses qui sont parfois insignifiantes, mais qui sont nommées parce qu'elles font partie de l'histoire. Troisième lieu, c'est Béthanie. Béthanie est plus connue parce qu'on connaît des personnes qui y habitent. Qui connaissez-vous à Béthanie? Lazare, Marthe et Marie, exactement. En plus, c'est des frères et sœurs, hein, ils sont ensemble, et c'est excellent. Quelqu'un connaît quelqu'un d'autre encore? Il y a encore Simon le lépreux, qui habitait aussi Béthanie. Alors, quand on pense à Béthanie, c'est vrai que une des choses, peut-être qu'il y en a deux qui viennent facilement à l'esprit, c'est la résurrection de Lazare. Lorsque nous pensons à Béthanie, on pense à la résurrection de Lazare, ou bien on pense à Marthe et Marie qui écoutent Jésus, hein? Tout à fait. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres, donc à moins d'une heure de marche. Jésus y fait donc son lieu de résidence pendant la Pâque. Il fera des allers-retours, hein, à Béthanie durant toute cette semaine. Voilà donc pour le troisième lieu. Donc un lieu très fort au niveau symbolique par rapport à la résurrection de Lazare. Et le dernier lieu, c'est le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers était considéré comme le siège des événements messianiques attendus. C'était considéré comme le siège des événements messianiques attendus, Zacharie 14:4 étant un texte phare à ce sujet. Et Ézéchiel 11:23 nous indique d'ailleurs une image de la gloire de Dieu qui part du temple et qui s'arrête au mont des Oliviers, ensuite bon, qui s'en va, et cette notion de cette gloire qui s'en est allée peut nous faire penser que quand Jésus revient depuis le mont des Oliviers pour rentrer dans la ville, est comme cette gloire qui revient au Christ qui vient amener cette gloire dans le temple. Ce mont des Oliviers sera aussi le lieu de la dernière nuit de Jésus, où il aura un temps de prière intense à Gethsémané, et où il sera arrêté. C'est aussi là qu'il s'approche de la ville, alors qu'il est sur l'ânon, et qu'il pleure sur Jérusalem. C'est sur le mont des Oliviers, quand il voit cette ville, qu'il pleure sur cette ville. Parce que ce n'est pas encore le temps d'être reconnu comme roi libérateur politique de cette ville, et qu'elle sera détruite. Voilà pour ces 4 lieux. Quand on nous parle de récits historiques, on nous donne des personnes présentes, on explique en détail ce qui se passe et on donne des noms de lieux afin que chacun puisse vérifier que cela s'est vraiment passé dans des lieux géographiques. Les lieux se chargent d'histoire, hein, et les histoires qui s'y passent vont charger le lieu. Ici, ce lieu est chargé d'histoire, cette église. Dernièrement, quelqu'un est venu de l'église, mais c'est là que je me suis fait baptiser, dans ce baptistère. C'est chargé, chaque lieu est chargé d'histoire. Donc voilà pourquoi lorsque l'on entend des termes comme Jérusalem, Bethphagée, bon ben là on se dit il n'y a pas eu grand chose, mais c'est important quand même, chaque endroit y a été important, Béthanie, le mont des Oliviers, cela amène en nous des souvenirs qui se superposent. Comme lorsque je vous parle de Neuchâtel, de la Sauge, bon, ça vous dit rien, ça c'est à côté de Valangin, en dessous de Bouliviers. Valangin ou Pierrabeau, c'est-à-dire ces distances un peu similaires d'ailleurs à ces différents lieux que l'on voit dans l'histoire. Marc nous indique des lieux qui nous permettent de comprendre son histoire, qu'elle est réelle, qu'elle s'ancre dans des réalités géographiques. Cela nous encourage donc à ne pas hésiter à parler de lieux lorsqu'on parle de nos témoignages. Parlons de lieux où nous étions, où Dieu a agi. Cela va se fixer dans notre mémoire et nous permettre chaque fois que nous y serons de nous en souvenir ou de nous souvenir de ce que d'autres ont vécu par la grâce de Dieu dans ces lieux-là. Si Marc souligne ces endroits importants pour comprendre ce que fait Jésus, nous voyons également des indications de la royauté de Jésus. C'est dont on va parler dans notre prochain point. Même humble, puisque Jésus vient humblement, c'est un roi. Alors j'aimerais relire le texte de Marc 11, de 1 à 11, et vous pouvez déjà vous-même essayer de voir, pendant que je lis le texte, quelles sont les actions qui nous démontrent que Jésus est roi. Nous en verrons 6 ensemble, donc essayez de les trouver dans le texte pendant que je le lis. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée, de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il vous laissera venir ici. Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près de la porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent « Mais que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Comme Jésus l'avait dit. » Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père ! Hosanna ! Dans les lieux très hauts !» Jésus a accompli plusieurs actions qui nous permettent de comprendre qu'il est souverain et maître de tout, qu'il est un vrai roi. Les avez-vous trouvés? On va voir. Donc la première chose, c'est qu'il prend l'initiative d'envoyer ses disciples. Allez! Je vais déjà vous les donner les six, puis ensuite on va un tout petit peu les expliquer. Hein. Donc le fait de prendre l'initiative et d'aller. Hein. Deuxièmement, il donne ses ordres, des actes à accomplir. Il donne des ordres. Détacher et amener. Troisièmement, il prévoit une réaction à avoir si quelqu'un réagit. Vous leur répondrez ceci et cela. Quatrièmement, il s'assied sur un ânon qui n'a jamais été monté. Cinquièmement, il entre à Jérusalem. Et sixièmement, il regarde et s'en va. Voilà les six éléments que nous allons voir et comprendre que cela est en lien avec sa royauté. Alors premièrement, il prend l'initiative d'envoyer ses disciples. Alors, est-ce que c'est par omniscience que Jésus savait qu'il y avait un ânon qui était là et qu'il pouvait le prendre, ou est-ce qu'il s'était arrangé avec le propriétaire de l'ânon? Nous ne le savons pas. La Bible ne le dit pas. Et en fait, les deux sont tout à fait possibles. Mais ce qu'il y a de commun, c'est qu'en fait, le propriétaire ne fait pas d'histoire. D'ailleurs, il semble peut-être même pas être là. Et cela nous montre qu'il n'y a, face au roi, pas de refus. C'est l'illustration de l'autorité du roi. Il veut quelque chose et il le reçoit. Cela nous pousse aussi à donner, nous aussi, tout ce que le Seigneur veut. S'il venait dans ta vie, il dit « Je veux cet ânon-là de ta vie », est-ce que nous le donnerions? Et Jésus veut un ânon sur lequel personne n'est monté. C'est une indication que cet animal a en fait été préparé pour lui. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un animal était consacré à une utilisation sacrée, il devait être mis à part et il ne devait pas faire des activités ordinaires que les autres animaux de son espèce faisaient. Eh bien ici, cet âne n'avait jamais porté personne parce qu'il devait être consacré pour porter Jésus-Christ. Hein. Ce petit détail souligne que l'ânon est approprié à la tâche qu'il avait à accomplir à amener Jésus dans la ville. Donc en premier élément, c'est le roi qui prend l'initiative. C'est pas les disciples qui disent « on va aller chercher un titane, hein, ça marche ?» Non, c'est Jésus qui prend l'initiative. Et ça, c'est la signature d'un roi. C'est un roi qui prend l'initiative. C'est le roi qui prend l'initiative, c'est lui qui a le contrôle de ce qui se passe. Deuxièmement, il donne ses ordres concernant les actes à accomplir. Jésus est clair en fait dans ses ordres. Il est très clair, il dit « Allez-y et vous allez le détacher et l'amener ». En fait, Jésus est celui qui indique ce qui doit être fait. Il guide et ordonne afin que ses sujets mettent à exécution ses ordres. C'est le roi qui donne des ordres et qui dirige. C'est un élément qui manifeste que Jésus est roi. C'est le roi qui donne des ordres et qui dirige. Troisièmement, il prévoit une réaction à voir si quelqu'un réagit. Le roi Jésus est prévenant pour ses disciples. Et il leur dit comment réagir si quelqu'un leur pose des questions. Et la réponse est à donner en lien avec son rôle de roi. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, la réponse est « le Seigneur en a besoin ». C'est pas, il y a un petit arrangement qui a été fait, faites-vous pas de soucis. Le Seigneur en a besoin. Tout ce que le roi demande, ses sujets soumis lui donnent sans hésitation, ni regret. En fait, c'est le roi qui a le droit sur tout ce qui appartient à ses sujets. Et par rapport à Jésus-Christ, en plus, car il en est le fournisseur ultime. Donc c'est le roi qui a le droit sur tout ce qui appartient à ses sujets, car il en est le fournisseur ultime. Quatrièmement, il s'assied sur un âne qui n'a jamais été monté. Le roi Jésus connaît parfaitement les Écritures à accomplir. Et il connaît le texte de Zacharie 9:9. Il le connaît. Et c'est pour ça qu'il va l'accomplir ici, dans ce texte. Il a aussi même probablement fait une allusion à Genèse 49, 10 et 11. Ça, vous pouvez noter, je ne vais pas l'expliquer maintenant. Genèse 49, 10 et 11 pour votre méditation, où on voit un accomplissement le jour de l'entrée de Jésus à Jérusalem de ce qui est dit dans ce texte. Mais les disciples ne comprennent pas tout cela. Et c'est très clair qu'ils ne le comprennent pas, parce que Jean 12, verset 16 le dit texto, ils ne comprirent pas ce qui se passait jusqu'à la résurrection de Jusqu'Christ. Donc, jusqu'après la résurrection de Jésus-Christ, les disciples n'étaient pas conscients que Jésus était en train d'accomplir une prophétie quand il est entré sur son âne à Jérusalem. De plus, Jésus sait que monter sur un âne manifeste l'humilité et le pacifisme, deux vertus que Jésus manifeste clairement tout au long de sa vie. C'est un symbole de royauté quand on pense au couronnement de Salomon. Vous vous souvenez peut-être de Salomon, où en fait David va dire à Tsadok et à... je ne sais plus le nom du chef de l'armée maintenant. C'est égal. Le chef de l'armée qui était là. Et lui a dit, tu vas maintenant prendre Salomon, tu vas le mettre sur ma mule et tu vas l'amener à Jérusalem. Et ainsi tout le monde saura que c'est lui le futur roi. Donc c'est dans un roi. 1:33. C'est le roi qui est monté sur un âne dans la ville de son royaume. Et le royaume, les disciples comprendront plus tard, n'est pas de ce monde. Jérusalem est symbole de l'épouse qui est donc présentée dans Apocalypse 21. C'est le roi qui entre monté sur un âne dans la ville de son royaume. Et ce royaume, donc les disciples comprendront plus tard, n'est pas de ce monde. Il l'a d'ailleurs dit devant Pilate. Il est roi, mais pas de ce monde. Et Jérusalem est le symbole de l'épouse, comme Apocalypse 21 le décrit. Cinquième élément, il rentre à Jérusalem. Le roi Jésus agit de manière à ce que son œuvre soit en complet accord avec sa mission. Son entrée à Jérusalem se fait le 10 de Nisan. Ça vous dit quelque chose? Bon, si je vous avais donné une date du mois de mars ou du mois d'avril, ça vous aurait aidé. Là, on est dans le calendrier juif. Mais le 10 de Nisan, c'est quand l'agneau pascal entrait dans la famille pour vivre quelques jours avec les familles avant d'être sacrifié à la place de ceux qui le méritaient. Donc, il entre ce jour-là dans Jérusalem comme un symbole de cet agneau pascal qui entre dans la famille. Et Jésus, sous l'acclamation de la foule, entre dans la ville. C'est un roi attendu, adulé. La joie et les rameaux agités rappellent d'ailleurs pour les Juifs le triomphe lors des Maccabées. Bon, là, je vous renvoie à une prédication que j'avais faite sur l'intertestamentaire. Je ne vais pas expliquer les Maccabées aujourd'hui. Mais donc, ils avaient utilisé des palmes et donc c'est quelque chose qui était connu des Juifs, de la joie qui régnait lorsque les Maccabées sont venus. Et c'est un triomphe qu'ils vivent ici et en pensant à une délivrance proche. Mais Jésus, par son attitude, démontre qu'il n'est pas le conquérant militaire attendu. En fait, c'est le roi qui décide la manière dont il entre dans la ville. Jésus manifeste sa royauté aussi en décidant de la manière dont il entre dans cette ville. C'est le roi qui décide la manière dont il entre dans la ville. Petite remarque ici, si Jésus a aussi laissé la foule parler de cette manière-là, l'acclamer, c'est parce qu'en fait c'était le moment d'entrer dans la dernière semaine qui allait l'amener à la croix. Tout le monde devait savoir qu'il était là et qu'il allait porter les péchés de tous ceux qui croient en lui. Donc ça, c'est un élément important. Ça a aussi été un élément que Dieu a utilisé pour susciter les pharisiens contre Jésus. Sixième élément, le roi Jésus est totalement libre de ses mouvements. Une fois entré dans la ville, que fait Jésus? Il va dans le temple. C'est le lieu de la présence de Dieu. Et que fait-il à ce moment-là? Intéressant ce qu'il est dit ici. Il regarde. Il observe. Cela indique l'activité d'un roi qui vérifie, qui observe pour voir si tout est en ordre. Puis il s'en va selon sa volonté. Le roi fait exactement ce qu'il veut. Il s'en va ensuite. C'est le roi qui peut vérifier ce qui se vit, parce que c'est lui qui décide ce qu'il demande. Donc c'est le roi qui peut vérifier ce qui se vit, parce que c'est lui qui décide ce qu'il demande. Jésus n'est pas un roi qui agit comme on peut s'attendre. Ici, il ne s'attendait pas exactement à cela. Et pourtant, il prend l'initiative. Il donne ses ordres. Il est prévenant. Il prend sa place. Il entre dans la ville. Il observe. Est-ce que Jésus peut faire la même chose dans ta vie? Peut-être n'agit-il pas comme on s'imagine, en conquérant sur son destrier. Mais c'est lui qui choisit la manière de comment il veut vivre sa royauté. Alors est-ce que nous lui donnons la place pour qu'il prenne ses initiatives, donne ses ordres, qu'il manifeste sa prévenance, prenne sa place, entre dans la ville, observe? Est-ce qu'il peut observer tout ce qui est dans ma vie? Si ma vie est une ville, vous pouvez lire John Bunyan, avec la guerre sainte, est excellent ce livre, où c'est, notre vie c'est une ville. Est-ce qu'il peut rentrer dans cette ville et observer tous les éléments? Après avoir réfléchi au rôle de Jésus comme roi, nous allons prendre quelques instants pour voir que fait la foule. C'est le troisième point, la foule n'est pas consciente de ce qu'elle fait et dit. C'est donc le troisième point. Je relis les versets 8 à 10. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Un petit élément de contexte. Il semble que chaque jour de cette semaine de Pâques, des psaumes étaient lus dans les synagogues. Et ce jour-là, il s'agissait du psaume 24. Qui était lu. Intéressant. Si on va lire ce psaume 24, les derniers versets, il est dit ceci. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros, l'Éternel, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Eh bien, plusieurs ont entendu ce texte du psaume 24, ce jour-là. Et Jésus entre dans la ville acclamé par la foule. C'est pas un hasard, évidemment. Mais avait-il vraiment compris ce qui se passe? Je ne pense pas, les disciples même ne l'avaient pas compris. Deuxièmement, comme nous l'avons vu précédemment, le peuple acclame le roi comme cela est écrit dans Zacharie 9, les versets 9 à 10. Dans Zacharie 9, les versets 9 à 10, nous voyons une acclamation de celui qui rentre avec donc cet anon dans la ville. Donc ils sont en train d'accomplir une prophétie sans même en être conscients. Et troisièmement, les paroles prononcées sont aussi très fortes. Il vaudrait la peine de méditer tranquillement chaque partie. Je ne vais pas maintenant prendre tout le temps qu'on pourrait prendre, mais si vous apprenez à méditer, ça serait typiquement ici quelque chose à prendre pour méditer. Et méditer, c'est quoi? C'est relire plusieurs fois le texte pour s'en imprégner, et ensuite chercher dans le reste de la parole des éléments qui nous éclairent cela, pour le comprendre réellement. Et ici, un premier terme, c'est Hosanna. Hosanna, ça veut dire quoi? Hosanna, en fait, nous avons la traduction dans le psaume 118 au verset 25. En fait, le psaume 118 au verset 25, que les pèlerins avaient l'habitude de chanter, eh bien nous avons ce terme qui est traduit en français par « Éternel accorde le salut ».« Éternel accorde le salut ». En fait, c'était « Hosanna ». Comprenez ici, l'agneau de Dieu entre dans la ville et le peuple appelle au salut. C'est quand même assez impressionnant ce qui est en train de se passer ici. L'agneau de Dieu entre dans la ville et le peuple appelle au salut. Deuxièmement, il est dit « celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est une reconnaissance d'où vient Jésus, alors que généralement il n'est pas reconnu. Peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth, hein, par exemple? Non, là il est reconnu, il vient au nom du Seigneur. Et Jésus les laisse parler parce que c'est le moment. C'est le moment, ce moment est venu. Et un autre élément dans les paroles, c'est qu'il est parlé du règne de David. Et c'est intéressant parce que c'est que l'évangile de Marc qui parle de cela. Donc les quatre évangiles parlent de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Par contre, le seul qui fait mention du règne de David, c'est Marc. Et en fait, si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions déjà parlé de cela. Parce qu'en fait, juste avant, quand Jésus était à Jéricho, parce qu'en fait, Jésus est venu de Jéricho pour venir à Jérusalem. Et à Jéricho, il y avait un homme qui s'appelait... Bon, quelqu'un m'a dit maintenant que c'est l'homme ressort depuis la dernière prédication. Mais c'est Bartimée, c'est jamais, qui s'est levé, tel un ressort. Donc Bartimée qui disait « Fils de David, aie pitié de moi !» Et en fait, cette notion de fils de David a imprégné la foule. C'est la même en fait qui a suivi Jésus qui est arrivé à Jérusalem, puis c'était les pèlerins qui venaient pour la Pâque. Et voilà donc un élément qui maintenant transparaît ici dans ces paroles de la foule, qui sont en fait des paroles qui sont vraies, qui présentent ce roi qui est descendant de David. Et c'est d'ailleurs celui qui aura le règne éternel, hein, puisque Dieu avait promis à David dans 1 Samuel 7 qu'il aurait une descendance éternelle. C'est en train de se réaliser. Et dernier élément ici que j'aimerais souligner, c'est qu'il est parlé de Hosanna, donc dernière partie, Hosanna dans les lieux très hauts. Quand je vous dis dans les lieux, ça vous fait penser à quelque chose? Dans les lieux très hauts, ça fait penser à quoi? Exactement, les bergers qui entendent les anges qui chantent à Bethléem et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'ils agréent ». Donc là, on voit ce lien, en fait, entre les anges qui chantent la gloire de Dieu et ici, un peuple qui est en train de chanter la gloire de celui qui entre dans cette ville. Mais, à mon avis, inconscient de ce qu'ils sont en train de dire. La foule dit des choses extraordinaires, mais n'en est pas vraiment consciente. Le fait que la foule se disperse et n'accompagne pas Jésus après son entrée est justement significative. La foule se disperse en fait, elle n'accompagne pas Jésus après l'entrée dans Jérusalem, elle se disperse, c'est significatif. Les gens n'avaient pas compris ce qu'il disait. Franchement, s'ils avaient compris ce qu'il disait, ils seraient restés vers lui. Ils l'auraient couronné, ils l'auraient suivi. Non, c'est très bizarre. En fait, ils entrent dans la ville, et puis là c'est comme si tout se disperse. Puis on retrouve Jésus avec ses 12 disciples dans le temple. C'est difficile de comprendre ça en fait. Mais voilà, c'est simplement que la foule n'était pas vraiment consciente de ce qu'elle chantait. C'est pas qu'elle n'était pas convaincue ou pas motivée, je suis pas en train de dire ça, mais n'était pas consciente de ce que ça signifiait réellement. Nous avons d'autres exemples dans la Bible, hein. Il y a un exemple très très frappant, c'est Balaam. Balaam, il a dit des choses extraordinaires sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoint ce peuple? Non. Il a dit des choses extraordinaires de ce peuple, et puis ensuite, eh bien, il va rejoindre les ennemis. Tu dis, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qu'il a dit. Eh bien, cela nous pousse à chercher à comprendre ce que nous disons. Lorsque nous chantons des cantiques, cherchons à les comprendre, afin que nous ne disions pas simplement des choses qui s'envolent et qui n'ont plus rien à faire avec nous. Cherchons à ce que lorsque nous chantons quelque chose, eh bien, dans l'heure qui suit ou la semaine qui suit, certains éléments, on va pas tout retenir, c'est normal, mais certains éléments peuvent nous accompagner et dire, ben oui, j'ai chanté dimanche ceci, mais je veux le vivre aussi lundi, mardi, mercredi, parce que je l'ai saisi et je le comprends. La nouvelle de l'œuvre de Christ est extraordinaire et puissante, et ma prière, c'est que Dieu nous fasse la grâce de nous en réjouir et que nous en devenions toujours plus conscients pour rester ensuite avec notre Seigneur. Alors si Jésus n'a pas été couronné lors de son entrée à Jérusalem et que les gens n'étaient pas vraiment conscients de ce qu'il disait ou faisait, Jésus sera couronné un jour et il manifestera sa royauté conquérante. C'est notre dernier point que j'aimerais voir avec vous. Le couronnement à venir. Je vais vous lire les versets 7 à 11 et vous allez me dire si vous voyez un couronnement ici. Ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Alors, en lisant ce texte, avez-vous l'impression que Jésus vient d'être couronné et que son royaume s'établit à Jérusalem? Pas tout à fait. Nous voyons une foule qui brandit des rameaux et qui semble se disperser rapidement dès l'entrée de la ville. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus se retrouve juste avec ses 12 disciples dans le temple. Où sont les autres? Alors si Jésus va recevoir une couronne dans les jours qui viennent, c'est une couronne d'épines, c'est vrai. Il va d'abord recevoir cette couronne d'épines. Mais il entre néanmoins comme roi à Jérusalem. Et Jésus dira à Pilate d'ailleurs, quand Pilate lui demande « Es-tu roi ?» Jésus ne lui dit pas « Non, je ne suis pas roi. » Il lui parle d'un autre royaume, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Ce royaume qui est inauguré par sa venue sur terre, marqué entre autres par son entrée sur un anon à Jérusalem, et sera pleinement manifesté lors de son avènement, lors de son retour glorieux. Et j'aimerais vous faire le lien avec quelques caractéristiques de sa venue glorieuse. On va en voir 7. Si Jésus est venu sur un ânon, il viendra sur un cheval blanc. Ça, c'est Apocalypse 19, 11 qui le dit. S'il est venu avec un ânon, il viendra sur un cheval blanc. Deuxièmement, si Jésus est venu avec des disciples à pied avec lui, à une foule à côté de lui, il viendra suivi de son armée à cheval. Apocalypse 19, 14 qui nous le dit. Si Jésus est venu avec des disciples à pied, il viendra suivi de son armée à cheval. Apocalypse 19, 14. Troisièmement, si Jésus a reçu une couronne d'épines, il est maintenant couronné de gloire. On le voit dans Hébreux 2, 9 déjà, et Apocalypse 4, 9 à 11 en parle aussi. Quatrièmement, si Jésus est venu et que tout le monde l'a laissé tomber, c'est ce qui s'est passé, eh bien il viendra et rassemblera ses élus de toutes les nations et de tous les peuples. Donc avant, on voit un roi qui vient puis qui est délaissé quelque part, et là on aura un roi qui viendra et qui rassemblera tous ses élus de tous les peuples et de toutes les nations. Apocalypse 7, 9 à 11. Ensuite, cinquième élément, si Jésus est venu pour donner sa vie et sauver ceux qui croient en lui, c'est ça, sa première venue, c'est son œuvre, il est venu pour sauver, donner sa vie et sauver ceux qui croient en lui, il viendra pour juger le monde. Il viendra pour juger le monde. Apocalypse 19, 15. Si Jésus est venu pour inaugurer un nouveau royaume, donc sa première venue est une inauguration d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Pour ça, des fois, on a un peu des problèmes avec les royaumes. On mélange un petit peu royaume terrestre, céleste, enfin, etc. Parce qu'en fait, il a amené un royaume qui n'est pas de ce monde. Et il viendra établir son royaume éternel. Apocalypse 15, verset 4 le dit. Et dernier élément, si des personnes ont pu s'opposer à lui et lui faire des reproches, donc on le voit aussi avec les pharisiens qui disent à un moment donné, ça on le voit dans Luc je crois, où il dit « mais fais-les taire tous ceux qui disent que Hosanna, béni soit le Seigneur ». Jésus dit « mais si je les ferai taire, c'est même les pierres qui crieront ». Mais voilà, des gens lui font des reproches. Si des personnes ont pu s'opposer à lui et lui faire des reproches, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira devant lui. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 11 nous le dit. Donc Jésus, lors de son entrée à Jérusalem sur un ânon, inaugurait un royaume pour lequel il allait se battre jusqu'à donner sa vie. Il a vaincu la mort par la résurrection et il est maintenant le roi victorieux et son royaume va se manifester un jour. Jésus a agi humblement et il viendra dans la gloire et nous nous réjouissons d'ailleurs. Alors avant sa venue, nous allons marcher à sa suite humblement comme il nous l'a montré jusqu'à ce qu'il manifeste sa gloire. Alors en conclusion, qu'allons-nous retenir de tout ce qu'on a entendu ce matin? Allez, je viens vers vous maintenant, puis on regarde qu'est-ce qu'on a retenu. Allez, je vais vous aider, on va juste reprendre quelques éléments pour un peu mettre tout cela ensemble. Si nous reprenons les quatre points que nous avons vus, on a parlé des lieux mentionnés. Donc nous avons vu que cela nous encourage à connaître les lieux avec leurs événements. Donc bien connaître notre Bible, et aussi lorsque nous témoignons, de ne pas hésiter à parler des lieux où nous étions. Ça, c'est un premier élément qu'on peut retenir, qu'on a vu. Ça va? Deuxième élément, même humble, c'est un roi. Jésus est roi. Mais est-il vraiment roi dans notre vie? Jésus peut-il prendre des initiatives dans ma vie? Suis-je sous ses ordres? A-t-il le droit sur tout ce qu'il m'a confié? Peut-il entrer dans ma vie à sa guise? Et peut-il tout regarder? Donc ça, c'était dans le deuxième point, il est roi. Et c'est un roi qui est venu pour donner sa vie. Donc si quelqu'un se dit ici, ah non mais moi je peux pas le laisser entrer, je suis tout sale. Eh bien il est venu laver nos péchés en mourant à la croix pour nous et en nous repentant de nos péchés et en saisissant sa grâce. Eh bien nous pouvons vivre avec lui comme roi. Troisième élément, la foule n'est pas consciente. Eh bien cela nous pousse à être conscient de ce que nous disons et conséquent, afin de ne pas être comme par exemple Balaam qui disait des choses extraordinaires d'un peuple et qui n'a pas cherché à l'intégrer. Et dernier élément qu'on a vu, le couronnement à venir. Nous marchons humblement à la suite de notre Seigneur, nous réjouissant de son jour de gloire qui sera aussi le nôtre. Et nous regardons donc de l'avant avec cette espérance que Jésus-Christ revient bientôt. Et comme l'apôtre qui a écrit l'Apocalypse, nous pouvons dire « Maranatha, viens bientôt Seigneur Jésus ». Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir encore aujourd'hui ouvrir ta parole, avoir des éléments de récits historiques qui se sont passés dans des lieux qui existent, avec une personne particulière qui est venue humblement sur un âne pour accomplir les prophéties. Celui qui est venu pour nous sauver, mais non seulement pour nous sauver, mais pour régner sur nous. Et il est bon d'avoir un roi tel que lui. Un roi qui est capable de s'humilier. Un roi qui ne va pas manifester une colère lorsque ses disciples ne comprennent pas. Un roi plein d'empathie. Un roi par contre qui nous responsabilise. Un roi qui demande à ses disciples d'aller chercher. Et ils ont trouvé tout ce qu'il avait préparé. Eh bien Seigneur, nous voulons te prier de nous aider aussi à être comme ces disciples prêts à accomplir ce que tu nous demandes, sachant que tu prépares aussi, que tu es celui qui ne nous laisse pas aller dans des situations sans nous dire comment nous pourrions répondre, mais tu le fais à ta manière. Et j'aimerais te prier Seigneur de nous aider à ne pas chercher à te dire quelle manière utiliser pour chacun de nous, mais plutôt à te dire Seigneur aide-moi à te comprendre, à t'entendre. Et à vivre, Seigneur, selon ta grâce. J'aimerais vraiment te prier que chacun ici, nous puissions entrer dans ce cheminement de compréhension de cette œuvre de Christ qui a inauguré un royaume qui n'est pas de cette terre. Un royaume qui est éternel et dans lequel nous pouvons déjà entrer par la foi et dans lequel nous vivrons pour l'éternité. Eh bien, sois loué, sois béni et permet que nous puissions être prêts pour ton retour. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.